appelle Laurent. Conseiller.
C'est l'heure des bilans, hein, jeunes gens.
Voilà, Olivier pour Montpellier, Audrey.
Donc le principe, c'est de faire un petit retour sur les journées d'études qui Christophe. Se sont déroulées dans l'année. Un petit retour. Hein,
du coup, Jean-Noël, t'étais pas prévu,
quelques,
mais
quelques
tu veux
commentaires.
Pas venir mais symboliquement, pour la photo, viens
si,
quand
si,
même.
Si, si, c'est important. Jean-Noël qui était sur...
Et Pierre.
Sur la journée du Havre, très récente, hein, puisque c'était au mois de septembre. Et Pierre Rabou.
Donc la première journée, je pense, après le colloque de l'an dernier, c'était à Issy-les-Moulineaux.
Dans le rythme hein, de ces travaux, alors je voulais rappeler un petit peu les principes qu'on a adoptés dans l'équipe pour ce projet. C'est qu'on a des journées d'études qui sont des journées thématiques qu'on organise ici, hein, à FGO Barbara. C'est pour ça que je parlais de partenariat. Nous avons également des journées d'études dans la France et on l'espère pas seulement hexagonal, hein, puisqu'on espère aller en Corse, on espère aller un petit peu partout, fouiller des territoires que l'histoire de la scène punk en France ne soupçonne pas. On a donc des journées en province, en quelque sorte, et on va en rendre compte. Et puis on a aussi un partenariat avec depuis 3 ans avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui nous accueille régulièrement au réacteur. Hein, donc qui est une SMAC et voilà donc ces journées d'Issy-les-Moulineaux, on y sera au mois de novembre, ça sera la troisième pour une journée sur la question de la scène justement qu'on n'a pas encore vraiment traité et là pour le coup pas la scène au sens des acteurs mis en réseau mais la scène, ce qui se passe sur scène hein, voilà. Donc on va commencer peut-être le bilan.
C'était le 20 octobre 2018, c'était authenticité, pureté, hybridité.
C'est moi qui ouais. Bon. Alors justement, puisque j'étais sur ce partenariat avec Issy-les-Moulineaux, on avait décidé de questionner quelque chose qui est vraiment au cœur de la scène punk en France, on s'en est rendu compte parce que c'est cette question de l'authenticité qu'on pourrait résumer d'une formule simple, ça c'est pas du punk ou ça c'est vraiment du punk. Voilà, ce sont des expressions qu'on a souvent entendues et on avait envie de travailler sur cette question d'authenticité, d'autant que comme l'a rappelé Laurent tout à l'heure, cette question de l'authenticité, elle renvoie souvent à un espèce d'âge d'or. Alors y compris pour le punk, hein, pas seulement sur le c'était mieux avant, disons dans la société et les 30 glorieuses. C'est quelque chose assez rapidement quand on a commencé ce projet avec Solveig, on s'est rendu compte que il y avait. D'ailleurs, on a écrit un article là-dessus sur cette question de l'âge d'or du punk en fait, en réalité. Et alors, le problème, je peux le poser de manière très simple, c'est que c'est un problème, disons, de génération et de posture. Les plus anciens considérant, hein, je fais très court, que le punk authentique, au fond, ça s'est arrêté en 78 avec la séparation des Sex Pistols hein, comme référence, et que au-delà de ça, tu parlais d'Europunk, ben, quand il y a eu un grand débat hein, sur cette exposition, parce que Patrick Odeline a abordé cette question du punk authentique, justement en disant, ben voilà, moi j'y étais, et après 78, c'est terminé, il n'y a plus rien qui se passe. Donc les plus anciens considérant que le punk s'est arrêté en 78, et les plus jeunes, et on y reviendra sur d'autres journées, considérant que le vrai punk, c'est aujourd'hui. Hein, qu'en quelque sorte, les générations qui arrivent avant sont des proto-punks au mieux, et puis au pire, des drogués, alcooliques, qui n'ont rien à voir avec le punk, avec le vrai punk étant aujourd'hui concentré sur... on y reviendra, c'est un peu polémique, hein, concentré d'une part sur le do-it-yourself, mais presque idéologisé, et puis une position où aujourd'hui, pour une partie de la scène punk en tout cas, ce qui peut paraître étonnant, mon cher Laurent, tu verras, on boit plus d'alcool, on pogote plus, bon, ça devient compliqué. Donc le punk authentique, j'en redirai un mot sur la scène punk à Bordeaux, hein, où on s'est quand même aperçu que le pogo est un truc de bof, donc quand les punks disent ça, c'est que ça devient compliqué. Donc la question de l'authenticité, elle est vraiment au cœur de ce travail. Et on se rend compte finalement, au terme de la journée, que c'est un mythe, l'authenticité du punk. Le punk est au fond quelque chose qui se vit en permanence, qui se réinvente en permanence. Alors tu as parlé des années, disons, de fin des 30 glorieuses, début de la crise, mais... ce qui a animé notre énergie sur ce projet, c'était justement de considérer qu'il y avait 40 ans de punk. C'est-à-dire que quand les jeunes nous disent, et plus anciens aussi, hein, ben, on est toujours là. Donc ça pose une vraie question. Et tu parlais de paradoxe, on est parti des paradoxes du punk. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est ce mouvement qui annonçait une absence de futur et qui, 40 ans plus tard, est toujours là. Donc cette journée nous permettait de travailler là-dessus. Le deuxième segment, c'était de questionner la notion de pureté ou d'hybridité. Parce que en se réinventant, la scène punk s'est enrichie, s'est resegmentée. Alors, on le dit de manière très simple, c'est toujours le punk au départ, c'est une espèce de kaléidoscope musical, esthétique. Si vous écoutez le punk en France en 77, il y a quand même entre Asphalt Jungle, Metal Urbain, Bijoux, Strychnine, etc. Il y a quand même voilà, un éventail de sonorités, de postures extrêmement riches. Et puis on se rend compte que dans les années 80, il y a quand même un resserrage de boulons autour de... C'est-à-dire, on définit un style. On définit un style, on le codifie. Et puis derrière, à la fin de ce qu'on pourrait appeler la période de la scène alternative, si on élargit, on revient sur une segmentation, un enrichissement, parce que le punk il se frotte un peu au métal, parce que il y a le hardcore qui arrive, parce que etc etc. Donc en réalité, c'est cette énergie là et cette richesse qu'on a voulu questionner, et en essayant de regarder un petit peu la trajectoire musicale, esthétique, stylistique du punk, et regarder comment ce mouvement partait d'une richesse, se resserrait, et puis se réenrichissait en quelque sorte. Bref, voilà, un mouvement qui se... Et donc, cette question de la pureté pose le même problème que l'authenticité. Hein, il n'y a pas de punk pur. Enfin, en tout cas, c'est ce que la journée montrait. Hein, c'est que voilà, on est face à un objet extrêmement paradoxal, et qui mérite. Je pense que cette thématique-là. D'ailleurs, c'est une des journées les plus riches qu'on ait eues, je crois, de mémoire. On s'est promis d'en refaire une seconde journée sur cette thématique de l'authenticité, tellement ça a mobilisé de gens. On a même refusé des coms. Et, dernier point, ce qui était intéressant sur cette journée, moi j'avais mis Arnaud Futur au défi, il ne le savait pas hein, quand il est arrivé le matin, avec Solveig, on avait décidé, Arnaud Futur qui jouait hier, un groupe électrique, punk électrique, j'ai dit à Arnaud, ben ce matin tu vas jouer en acoustique. Hein. Donc la question, c'était le défi, c'était est-ce qu'on peut faire du punk avec une guitare acoustique. Alors pour ceux qui étaient là hier avec La Rue qui t'emmerde, bon la réponse est oui évidemment, mais c'était une manière un petit peu de provoquer en disant, et alors de remettre la culture au cœur. Hein, c'est une des caractéristiques du projet, c'est qu'on ne sépare pas la science de la culture et de la culture en train de se faire. Voilà. Le défi pour Arnaud, c'était d'interpréter ses chansons. Unplugged et de montrer que l'énergie punk finalement elle a besoin de l'électricité, mais elle peut aussi s'en passer. Ça passe par des mots, ça passe par une attitude, etc., etc. Donc c'était un moyen de nourrir aussi les questionnements avec donc ces chansons réinterprétées. Et je crois, pour conclure rapidement parce que je suis très bavard, qu'on refera cette journée authenticité, pureté, hybridité, pour continuer à travailler sur ce terrain-là qui reste non pas une énigme, mais disons une question en suspens hein, autour du punk qui décidément est un objet extrêmement dur à cerner.
Voilà. Ouais, je rajoute que c'est un chouette partenariat maintenant qu'on a avec Marino Crespino qui est programmateur au Réacteur, et que du coup on y reva là en novembre, le 30 novembre. Ouais. Pour une journée qui s'appellera Tous en scène, mais que donc ça fait trois fois avec la municipalité qui est très très soutenante à notre égard. Oui. Donc voilà, c'est aussi une jolie rencontre ici les Moulineaux. C'est quand même voilà, ça fait plaisir de revenir pour la troisième fois dans un endroit où on est toujours très bien reçu. Il y avait un concert la veille du colloque et un concert le soir du colloque. Voilà. Ensuite, eh ben tu vas continuer parce que c'est Bordeaux.
Bon,
je pense.
Je vais enchaîner alors. Bon, alors, évidemment, on était avec Solveig et Emmanuel. Il est où, Emmanuel ?
Emmanuel,
t'aurais pu venir. Parce que, alors, j'en profite, je fais une petite parenthèse. Manuel Roux, qui est à la fois musicien, mais qui est aussi notre doctorant. Hein, donc, j'en profite pour dire que dans le projet, c'est un projet qui aspire les jeunes et qui a aussi pour vocation de participer à une formation art et par la recherche. Hein, donc Manuel est en deuxième année de thèse et il aura l'occasion de reparler de son travail. J'en parle pas maintenant. Avec Manuel, donc qui est bordelais, on a porté cette journée d'études sur la scène punk à Bordeaux. C'était le 1er décembre. Avec un partenariat local extrêmement fort avec la Rock School Barbet et Eric Roux que Laurent connaît bien, et je veux souligner l'importance de l'aide que nous recevons localement sur ce projet, parce que c'est indispensable. Sans Eric, le projet n'aurait pas été le même à Bordeaux, faut le dire. On a eu sur place des moyens, la salle, le lieu, la nourriture, enfin des choses auxquelles on pense pas immédiatement, mais qui font que le projet aussi tient la route. Et le concert, enfin bref. Hyper pro, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Et aussi avec Eric, tout un réseau d'adresses, etc. Donc des facilités aussi pour constituer tout le vivier qui a été au cœur de cette journée d'études. Et enfin, parce que tu l'as rappelé, Laurent, c'est une question de patrimoine, la Rock School Barbet, on a le fonds de la Rock School Barbet, le fonds d'archives sur lequel on est en train de travailler. Parce que j'insiste bien là-dessus, ce projet a pour vocation, c'est un projet d'histoire, de musicologie, de SHS, mais sans les archives, on peut rien faire. Sans les acteurs, on peut rien faire. Que ce soit des acteurs institutionnels, que ce soit des acteurs privés, des musiciens, etc. Voilà. Donc, disons que c'était carton plein à Bordeaux. Alors, pour dire deux mots de la journée, puisqu'on était sur les 40 ans de punk, les trois générations qu'on a identifiées très globalement et que j'ai un petit peu résumé de manière rapide tout à l'heure étaient présentes. Il y avait les plus anciens, c'est-à-dire à Bordeaux, ce qu'on appelle aujourd'hui la génération ST, parce que Strychnine, Stalag, STO, tous les groupes punk, pour une raison qui reste toujours obscure, on ne sait pas trop si c'est par référence aux Stooges, par amour des Stooges, on ne sait pas. Il y a beaucoup de légendes, ouais, on parle de mythe et d'authenticité, mais bon, on n'a toujours pas éclairci ce mystère. Toute cette génération-là était présente et revenue sur cette scène qui est sortie littéralement de terre, et avec des groupes comme Strychnine qui ont ouvert pour Clash à Mont-de-Marsan, des groupes comme Stalag qui ont fait le tour de toutes les salles bordelaises encore en gestation et qui jouaient à la fac. Et puis donc une seconde génération qui pour revenir sur les groupes emblématiques de Bordeaux, c'est Caméra Silence, par exemple. Évidemment, qui est revenu dans l'actualité avec l'affaire Gilbertin, Caméra Silence. Et puis, une troisième génération. Alors là, je reviens vers ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'authenticité, parce que ça a été un gros débat qui était animé par Manuel, qui fait partie de cette scène qui est riche et complexe, la scène actuelle punk. Parce que, alors, pourquoi est-elle riche et complexe? Comme dans toutes les villes, il y a une espèce de superposition des couches archéologiques du punk. Il y a les plus anciens qui jouent toujours. Je parle de Strychnine, ça joue toujours. Stalag, ça joue toujours. Ils se sont reformés. Mais il y a également des groupes de deuxième et évidemment les plus jeunes aujourd'hui qui arrivent. Et donc, il y a ce débat autour de la question qui est punk, qui ne l'est pas, etc. Et alors, ça a été très chaud à Bordeaux. Ça a été très, très chaud. Je le dis, parce que il y a quelques villes où tu confirmeras que quand c'était un petit peu chaud aussi, un petit peu. Parce que là, il y a eu un grand débat. Il y a eu vraiment un grand débat. On avait invité donc toute cette jeunesse à venir parler de ce qu'ils faisaient en termes de projets, de musique, etc. Et finalement, d'emblée, la discussion s'est orientée vers est-ce que vous êtes légitime pour porter ce projet scientifique sur le punk? Ça, c'était la première question. Donc, on était tout de suite interpellés. Bon, puis là, faut réagir dans l'instant. Hein, c'est compliqué. Donc, la deuxième question, c'était nous. On veut bien parler, mais on se méfie de vous parce que il y a toute une approche un petit peu conspirationniste on veut pas donner de renseignements sur ce qu'on fait, donc c'est le côté underground, mais là avec un grand U, souterrain de chez souterrain, quoi. Et puis la troisième question qui a été posée, c'était les punks, c'est nous, Avant, c'était que des drogués alcooliques. Nous, aujourd'hui, on va pas jouer dans les squats parce que le son est pas bon. On boit plus, on fume plus. Et puis le pogo, c'est un truc de bof. Hein, je fais une voilà. Donc, alors là, non, mais je sens du remous dans la salle. Mais en même temps, ça pose une vraie question puisqu'on parlait d'authenticité dans mon intervention précédente. C'est que tout d'un coup, on se rend compte que sur 40 ans, il y a quand même une espèce de révolution. Alors, attention, c'est un segment de la scène actuelle, mais qui est très actif et avec lequel il faut compter. Après tout, tu parlais de la position scientifique et le chercheur dit, il n'est pas là pour juger, il est là pour dire, ça existe, donc je le prends en compte, et ça reproblématise, en fait, ce que je pensais savoir, connaître ou interroger du punk. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, même si sur le moment, c'était chaud bouillant, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, dans cette science en train de se faire, de voir de quelle manière les questions que le chercheur pose, alors, parfois avec naïveté, parfois avec son assurance, parfois avec ses propres errances, ça, voilà, et ben d'être chamboulé, d'être remis en question et de se dire, ben, faut repartir de ça. Faut repartir de ça parce qu'autrement on n'a rien compris. Hein, la science, c'est, et avec Solveig, ce projet, je parlais de la musique au cœur. Le deuxième axiome, en quelque sorte, c'est on fait pas sans les acteurs. Voilà, on fait pas sans les acteurs. Et c'est, on a l'ambition de ce projet comme étant un projet de science participative. Et on fait pas sans les acteurs, on fait pas sans vous, on fait. Et donc la question, elle rebat les cartes en quelque sorte, et on à partir, il y a eu en quelque sorte un avant et un après Bordeaux, enfin pour nous en tout cas. Ça nous a obligés à réfléchir différemment et à retraduire, à reposer ces questions de l'authenticité, de l'implication, de ce qu'on fait et de ce qu'est réellement la scène punk au fond, parce qu'on se rend compte que... Et moi je le dis très modestement, là en tant que Luc Robben, musicien né en 62, quand j'ai commencé ce projet avec Solveig, je pensais savoir ce qu'était le punk naïvement, c'était plus du vécu, et en fait plus j'avance dans ce projet, plus je croise les gens, les jeunes, les moins jeune, et plus je me rends compte que je ne sais rien en fait, et c'est ce qui est passionnant. C'est passionnant parce que ça a complètement chamboulé, c'est-à-dire que le Luc musicien et le Luc chercheur sont des personnes qui sont obligées de cohabiter et de s'interpeller et de se questionner en permanence. Moi, on m'avait posé la question au CNRS, oui, mais alors vous, est-ce que ça fausse pas votre regard? Et la réponse, c'était, ben, avant, c'est ce que je viens de vous dire, le musicien va vous dire que enfin, c'est pas tant le musicien, c'est celui qui avait 15 ans en 77 va vous dire que le punk ça s'est arrêté en 78, mais le chercheur va vous dire bah non. Non seulement ça s'est pas arrêté, mais la scène actuelle est une scène hyper intéressante parce que elle questionne justement ce que le jeune de 15 ans en 77 croyait savoir de ce mouvement-là. Voilà. Et c'est moi, c'est ma richesse, mon intérêt personnel et celui de Solveig aussi, c'est il est là. C'est dans cette réinterrogation permanente de ce qui est un objet aussi passionnant et pour moi assez intime, hein, mais qui m'oblige comme ça, voilà. Et donc Bordeaux, pour terminer sur Bordeaux, a été d'une richesse absolument incroyable. Et dans les soutiens, j'oubliais la ville de Bordeaux, parce qu'on a eu, évidemment, à travers la Rock School, le soutien total, hein, de la ville sur la com, etc. Voilà, bon, je suis un peu long, je suis désolé. Pour moi, c'était important, c'était une journée importante parce que je suis bordelais et que... Ah oui, j'aurais dû commencer par ça. Là, c'était... Mais Solveig me disait, bon, on va la faire cette journée. Je freinais un peu des cas de fer parce que... Et il a fallu faire venir des acteurs, toi tu le sais Laurent, c'est un peu compliqué. Didier Esteb du Krakatoa, Eric Roux de la Rock School Barbé, Francis de Allez les filles, relâche. Là, je peux vous dire que ça a été un exploit de faire venir à la table. C'est un petit peu comme à l'ONU, hein, si vous voulez. Vous avez quand même les parties en présente, c'est compliqué. Je pense que c'est un peu partout pareil. Mais connaissant le problème, ben, ils ont accepté de venir. Et ça, et je terminerai là-dessus, je pense que c'est le punk qui permet ça. C'est vraiment, j'en suis convaincu, c'est qu'ils sont tellement attachés à cet objet qui est aussi leur vie, qu'ils ont accepté de, hein, de taire un petit peu leur dissensus et de venir parler. Voilà. Bon, je vous remercie et je passe la parole au suivant.
Oui, alors on va essayer de faire dans l'ordre. Donc du coup, j'ai oublié, avant Bordeaux, on est allé à Nantes. Alors c'est Elvire Bornan qui a organisé la journée, donc elle n'est pas là pour en parler. Moi, ce que je retiens de Nantes, alors d'abord, on a été très bien accueillis. Ah ben, il y a Gilda. Gilda.
Où est Gilda? Tu viens nous dire deux mots. Tu viens nous dire deux mots de Nantes.
Si.
Alors ça c'est aussi. Il y a des grands timides dans l'équipe. Donc Gilda était co-organisateur avec Elvire Bornan et nous-mêmes de cette journée à Nantes, qui est une journée importante. Alors d'autant plus importante qu'il y avait eu dans les deux ans précédents une journée à Montaigu. Alors Montaigu, c'est à 40 km de Nantes, mais il y avait un microcosme punk à Montaigu et c'était une des interrogations de savoir si il y avait des interférences, entre cette scène, Montacutaine, j'ai bien retenu, et Nantes. Bon, Gilda, tu t'es pas obligé de, tu fais synthétique, hein, y a pas de.
Bah, ça s'était bien passé, c'était sympa. voilà, très bien. Toi. Et je viens de Nantes et je suis content. Non, c'est pas ça. C'était à Trampolino. Il y avait effectivement eu un concert. Ça a été. Il y a aussi l'exposition rock à Nantes là qui avait été intégrée dans le programme. Sur les interventions. Je me souviens de la mienne particulièrement là avec Mehdi de la scène hardcore. Enfin, ce qui était intéressant, c'est faire le lien justement. Je vais parler de ce que j'ai fait. Au moins, on est plus légitime de parler de ce qu'on fait ou de ce qu'on a vraiment, c'est vraiment engagé. Mais de voir un peu les gens de cette génération qui ont commencé aussi avec le skate, qui est aussi une histoire un peu parallèle au punk, en fait, qui s'est un peu greffé là-dessus, qui est passé à la scène hardcore et voir comment des styles, t'en parlais un peu. Enfin, le punk a pu s'essaimer dans des choses comme ça, quoi. Dans la scène skate, la scène hardcore, etc. quoi. D'autant qu'après Nantes, il y a le Hellfest, donc il y a toujours un peu des rapports aussi avec le métal qui peuvent être explorés ou pas, mais ça dépend de l'ouverture qu'on peut faire. Et pour le reste, je ne sais pas s'il y a des trucs.
Évidemment, il y avait tout un tas de témoignages très 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 intéressants. Il y a Laurent Bégaudeau qui était là, qui a été
François Bégaudeau.
François Bégaudeau, donc qui a été le chanteur des Zabriskie Point, hein, donc qui est venu témoigner.
Et je dirais que Elvire avait inauguré une formule qu'on n'avait pas encore fait pendant les journées d'études, une espèce finalement d'entretien croisé en direct, qui était très très bien. Et c'est quelque chose qu'on pourrait refaire parce que ça fonctionnait bien, c'était vraiment intéressant. C'était pas juste des questions comme ça, c'était un vrai échange. Et vous pouvez écouter les fichiers sons là sur le site internet. C'était vraiment une très bonne formule. Ça, Elvire avait une très bonne idée.
Oui, on l'a pas dit, mais on rappelle que le site est tenu à jour du projet, qu'il y a toutes les captations sonores de toutes les communications. Donc, vous pouvez revenir évidemment sur chaque journée. Alors, donc, il y a des images, mais il y a aussi le son. Toutes les communications sont captées. Voilà.
Alors ensuite, on est revenu à Paris. Ça, c'était en janvier ou au début février. Alors, attendez, je me remets dessus. On en fait tellement, on se rappelle même plus. Rencontre thématique. Donc, c'était punk et idéologie, ici. Pierre ?
Tiens.
Alors, avant que Pierre prenne le micro, ça a été une journée, si on fait l'autocritique, c'était une trop grosse journée. On aurait dû faire deux journées consacrées à cette question, parce que le thème était tellement riche que du coup, ça a été un marathon géant, ça a été un peu dur à gérer. Ça preuve que c'est une vraie question, punk et idéologie. Vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup de propositions. Ça vaudra peut-être la peine qu'on en refasse une sur un thème approchant, en prenant plus le temps d'approfondir, parce que ça a été un peu express.
On en fait tellement qu'on vient un peu à oublier cette journée-là. Donc, ouais, je pense que c'était une journée très riche et effectivement un peu trop longue.
Tu verras rien.
Bah, je vais juste regarder là-dessus. Voilà, je pense que c'était une des thématiques, comme celle sur la réussite qu'on avait fait l'année d'avant, où on touchait à un de ces enjeux qui revient très souvent quand on parle du punk, c'est-à-dire comment on va le catégoriser. Est-ce que vraiment il y a une idéologie qui est propre au punk? Est-ce qu'il participe à d'autres choses? Est-ce qu'on peut, par exemple, relier directement avec l'anarchisme ou avec d'autres types d'engagements, mais aussi sur des engagements avec lesquels, peut-être, qui sont plus problématiques pour nous ou dans la discussion sur les attachements avec une idéologie la plus identitaire. Et cette journée, elle a permis, je pense qu'elle n'a pas permis du tout, évidemment, de répondre à ces questions-là, mais d'ouvrir justement ces différentes pistes. Et je pense aussi que ce serait bien de continuer à creuser là-dessus, donc aussi une journée très riche qui aurait permis au moins de commencer à mettre des mots et voir les différentes pistes. Par exemple, qu'est-ce que l'anarchisme punk, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une idéologie punk, ou est-ce que le terme même d'idéologie ne convient pas, est-ce que voilà, le punk tente d'échapper à ces différents types de catégorisation. Donc comment on peut essayer de le cerner, je pense, ces questions qui ont été posées de façon intéressante cette journée-là.
Et pour rebondir juste, cette journée a permis d'inaugurer aussi une nouvelle formule qu'on continue cette année, c'est Voto. T'es où, Voto ? Ah, il est là. Voilà, on a rencontré Voto l'an dernier, ça fait un an, je crois, qu'on t'a rencontré. Et du coup, Voto, il fait des petits portraits pour nous d'une vingtaine de minutes de figures du punk, donc de manière très large. Pour l'instant, on n'en a pas encore fait beaucoup, mais c'est amené à être enrichi. Puis il faut que j'arrive à trouver le moyen sur le site internet de mettre de la vidéo. Donc c'est, voilà, il faut écrire à la graphiste qui est en Pologne, qu'elle fasse. Bref, donc c'est pas pour tout de suite, mais Voto nous reprojettera tout à l'heure le deuxième de sa série, de sa longue série. Donc ça, c'est quelque chose qui va être amené à être enrichi, j'espère, si on a un peu plus aussi d'aide financière, pour arriver à avoir des portraits très variés. L'un des résultats du projet, vous le savez maintenant, étant de montrer que le punk est partout et que donc il y a plein de manières d'être punk et d'investir cette vie de punk. Voilà, donc c'est ce que montrent les portraits de Voto de manière très large. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on est allé ? On n'a rien fait avant Montpellier, vous croyez ? Avant mai ? Ah ben, à Montpellier.
Il y avait une journée d'études, non ?
Oui, mais on en parlera après du séminaire, ouais.
Bon, ben oui, du coup, la journée à Montpellier qui s'est extrêmement bien déroulée, hein, qui s'est passée d'ailleurs dans un cadre assez magnifique, l'ancien hôpital Saint-Charles, pour ceux qui connaissent. Il se trouve que notre idée était de réunir vraiment les acteurs passés, actuels, mais institutionnels, comme les musiciens, comme ceux qui font cette scène-là. Et pour ce coup-là, c'est vrai que c'était une très belle réussite, hein, puisque effectivement, nous avons eu le soutien du directeur régional des affaires culturelles, monsieur Roturier, qui est ici, mais également de Guy Barral, qui est l'adjoint au maire, et les deux ont un lien avec la scène punk. C'est ça qui était assez surprenant. Surtout le jour de la comédie du livre, je tiens à le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix de votre part, et nous vous en remercions, et de la part de Guy Barral, qui est l'adjoint au maire, de venir à une scène, ou plutôt à une journée d'études sur la scène punk à Montpellier, plutôt que de montrer présence, et d'abord donc à la comédie du livre. Donc nous vous en remercions vraiment très chaleureusement. Du point de vue des acteurs, il y en avait un certain nombre. La scène punk montpelliéraine est très riche, Shérif, OTH, Les Vierges, Les Provisoires. Et il se trouve que, ensuite, toutes les décennies ont aussi montré que le punk montpelliérain ne s'arrêtait pas en 70-80. Voilà. Donc nous avons également eu un vivier très riche d'une organisation qui s'appelle le KJB, hein, et qui a fait miroiter jusqu'au bout qu'il ne viendrait pas, et ils sont arrivés à 15. Voilà. Donc ils sont arrivés à 15, et le débat était extrêmement riche, puisque il y avait à la fois, disons, les premiers, hein, les premiers punks, puis Fifi, donc, de la TAF, qui a vraiment créé cette scène rock punk à Montpellier, et une très bonne entente d'ailleurs entre lui et le KJB, et donc ce passage de flambeau qui se réalisait sans aucun problème, avec un très très beau partage. Que dire de plus ? J'ai noté quelques points. Oui, donc forte présence de la scène locale, effectivement. Du côté scientifique, nous avions également Thomas Loué, qui a présenté, je trouve, une communication très intéressante sur le fan club d'OTH, et donc avec une cartographie qui essaie de nous montrer à quels endroits pouvaient se manifester davantage peut-être les fans d'OTH, et pourquoi à cet endroit, et pourquoi toujours en dehors des villes alors qu'on les attendait plutôt au centre. Enfin, toujours des recherches très nourrissante et très intéressante. Voilà, que dire ? Enfin, oui, je terminerai là-dessus. On a des promesses en termes d'archives qui sont monumentales, hein, du point de vue du KJB. Donc, sur ces 30 dernières années, il possède vraiment des archives très intéressantes. Également des gens que nous souhaitions contacter, mais que nous ne parvenions pas à contacter, qui sont venus d'eux-mêmes, par le bouche à oreille, et qui nous ont promis également, notamment un monsieur qui s'appelle Xavier, et qui a des archives filmées d'OTH et des Shérifs lorsqu'il commençait, hein, lorsqu'il débutait. Et donc, ben, bonne promesse pour notre projet, PIN, et grand moment. Voilà.
Ouais, et ça a été vraiment riche aussi, parce que la preuve, c'est que dans le lexique franco-punk là, qui va arriver, il y a une jeune femme je pense qu'elle est en ethnologie, Cécile Laurence.
Cécile, oui. Ouais.
Et qui nous a rédigé 10 notices, donc sur le, enfin, sur plein de choses à Montpellier, le punk catalan, enfin. Donc il y a eu une vraie volonté aussi de transmettre ce qui s'était passé. Ouais. Ce qui fait que dans le lexique franco-punk, il y a vraiment toute une focale qui est mise sur Montpellier et les alentours, ouais, grâce à cette journée d'études. Donc c'était vraiment chouette, le travail.
Et puis peut-être finir en disant qu'il y a eu un concert le soir aussi. J'ai complètement oublié, mais Leptic Ficus et donc la scène perpignanaise aussi, Cortex, qui sont les anciens Cargols. Donc il y avait vraiment une scène actuelle avec du ska, on va dire du ska punk ou ska core, avec eh bien du punk plus actuel, Leptic Ficus pour ceux qui connaissent. Certains devaient jouer Stalingrad, mais ça s'est passé autrement. On voulait réunir anciens et actuels, et puis finalement, eh bien, ce sont les actuels qui ont joué. Voilà, mais c'était une très belle scène au Black Sheep, on peut dire. Voilà.
Et d'ailleurs, on prévoit une journée à Perpignan.
Bon, ben ça, c'est voilà, indispensable. Voilà.
Merci.
Merci.
On est allé où après? On est allé au Havre, non? Alors, je dis juste un tout petit mot sur le Havre. En fait, elle n'est pas encore assise.
Il n'y a pas les photos.
Il n'y a pas encore les photos. C'est tout récent. Je n'ai pas mis les photos. Je n'ai pas eu le temps. Je suis désolée. Ouais. Alors, tout ça pour dire que c'était spécial, le Havre, parce qu'on a reçu un mail de Jean-Noël, ici présent, qui voulait organiser... Arnaud. Et d'Arnaud, le marchand, que je salue. Je n'ai pas eu le temps de... qui voulait faire une journée d'études au Havre et qui était au courant de ce qu'on faisait et on s'est dit on va le faire ensemble. Donc on a fait une journée express au sens où on a mis quoi 3 mois à la Calais. Voilà, Christophe Pécou qui travaille sur le terrain normand et Estelle nous ont beaucoup apporté parce qu'ils avaient des connaissances etc. qui fait que le programme s'est beaucoup enrichi et on a été accueillis dans un amphithéâtre très très beau dans une école d'ingénieurs, c'est ça hein. Et voilà, donc il y a beaucoup de monde, c'était une journée très riche, mais allez-y, voilà.
Oui, donc initiative de Jean-Noël et Arnaud.
Timide,
hein.
Là, mais voilà.
Donc on s'est greffé dessus et donc le Havre arrive aussi après deux villes normandes puisqu'on avait déjà fait une journée à Caen, une à Rouen et donc il manquait la troisième grande ville de Normandie, donc le Havre. Bon, ça tombait bien puisque on avait envisagé d'en faire une sur le Havre. Donc le Havre, pourquoi? Le Havre, la ville du rock en France, hein, faut le dire, hein, d'accord. Donc depuis les années 70. Alors le punk peut-être un peu moins, mais l'objectif c'était de montrer comment cette ville, ce port, est la porte d'entrée de tous les premiers groupes anglais qui viennent en France. Donc c'est pour ça que le Havre accueille dès 75-76 les Ramones, les Stranglers, les Jam, Eddie and the Hot Rod, voilà. tout un ensemble de groupes qui va influencer le punk et qui va influencer les jeunes locaux, puisqu'on va voir arriver des groupes dès 76-77, un groupe comme Teenage Riot par exemple, qui deviendra Fixtop par la suite. C'est aussi la présence d'une figure locale, hein, Little Bob, qui nous a fait l'honneur de venir à la journée, donc autour d'une table ronde. Alors Little Bob, bon, faut le canaliser, faut le maîtriser. Donc j'avais déjà fait un entretien avec lui auparavant, donc on se connaissait un peu, voilà. Mais voilà, il nous a raconté un petit peu tout son, notamment tout son périple en Angleterre. Puisqu'en 75 et 76, ils font plus de une trentaine de concerts en Angleterre, au Marquis, etc. Au même moment où le punk anglais émerge, donc il a bien connu cette période. Donc le but, c'était aussi de faire le tour un petit peu de cette question portuaire, avec un Italien qui nous a parlé de Gênes, et notamment essayer de comparer entre ce qui s'est passé dans le port de Gênes au même moment et le Havre. On a eu aussi une intervention sur l'esthétique punk. Je sais plus les noms. On a eu des acteurs locaux. Donc on a parlé des fanzines, donc Aliénation, dont Valérie est la créatrice ici. On a invité aussi Laurie. Alors Laurie, c'est celui Rockin' Le Havre. Si vous cherchez quelque chose sur Le Havre, vous allez sur Google, vous tapez Rockin' Le Havre et c'est toute la mémoire du rock havré. Donc c'est un musicien, c'est pas son boulot. Il travaille sur la constitution de cette mémoire du rock havré sur son site depuis les années
60 jusqu'à aujourd'hui. Donc il a recensé aujourd'hui 300 groupes à vrai. Alors plutôt rock, punk, hardcore, etc. Mais bon, c'est une mine d'or pour les chercheurs. Hein. Donc il y a eu tout un ensemble. Voilà, il y avait Yann Farsi, il y avait Marc Minelli qui était musicien au même moment dans les années fin des années 70. Donc il a fait un concert aussi le soir de reprise acoustique du punk. Donc là c'était super sympa. Il y avait Euthanasie Juliette, donc elle qui faisait le lien entre Le Havre et Montpellier, les Shérifs, etc. Donc il y a eu tout un ensemble voilà d'interventions autour de cette question-là. Et puis surtout, ce qui a été intéressant, c'est que l'après-midi, il y a eu des étudiants de l'IUT qui sont venus carrière sociale et médiation culturelle, et donc qui partaient un petit peu dans l'inconnu. Et puis leur prof nous a dit qu'ils avaient adoré et qu'ils pensaient déjà travailler sur cette question de la médiation culturelle et les politiques culturelles, etc. Donc voilà, ça a été une porte d'entrée pour des futurs projets au sein de cette IUT. Donc voilà, je passe... Oui.
Je voudrais rajouter juste une petite chose ou deux. D'abord, peut-être deux choses d'un point de vue méthodologique. Déjà, je voudrais remercier Arnaud et Jean-Noël de nous avoir contactés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont eux-mêmes universitaires. Donc Jean-Noël Castorio, qui est antiquisant à l'Université du Havre, et qui, je trouve que c'est intéressant que d'autres collègues, et Arnaud qui est économiste, je crois. Donc c'est intéressant d'un point de vue méthodologique et pour nous, pour l'équipe et pour qu'on voit que le travail de fond qu'on mène en tant que Luc et Solveig mène en tant qu'universitaire et sème comme ça et qu'on se rend compte que dans d'autres, c'est pas seulement les acteurs qui se manifestent pour participer ou alimenter les archives ou cette collecte de données, que d'autres universitaires tout à coup, et parce que vous aviez cette idée depuis longtemps, quand on en a discuté, de travailler sur la notion de punk portuaire et d'avoir cette entrée à Vraise. Donc que des collaborations avec d'autres universitaires permettent à l'équipe d'avoir aussi d'autres points de vue et d'autres disciplines dans un projet interdisciplinaire comme le nôtre, d'avoir un économiste, un historien de l'Antiquité. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ces points de vue différents. Et puis, pour nous, avec Christophe, ce qui était... donc ça, c'est déjà merci beaucoup de nous avoir permis d'organiser cette journée au Havre. Et puis, pour nous, pour Christophe et moi, qui travaillons sur la Normandie, ce que je trouve très intéressant, comme l'a dit Christophe, on avait l'intention de faire quelque chose au Havre, on ne savait pas trop comment le faire, parce que... Et donc, ça a été évidemment formidable de le faire avec vous. Ce qui nous a intéressés, nous, c'est que, en tant que... Canet ou Rouennaise, on a de toute façon un lien avec le Havre depuis toujours. D'abord, historiquement, comme le disait Christophe, par rapport à la venue des groupes en France par le Havre puis Rouen, mais aussi pour la scène des généalogies de groupes, et c'est là-dessus qu'on trouvait ça très intéressant, de voir que les groupes ont toujours... Il y a des groupes de Rouen qui ont joué avec des Havrais depuis toujours, que ce soit les concerts... des Dogs et des Olivenstein avec Bob, et ensuite il y a toujours eu des liens avec les City Kids, avec Fixed Up, avec... donc cette généalogie-là nous permet d'agrandir. Donc quand on fait des journées en ville, maintenant on peut aussi avoir une notion de région, et donc d'avoir une autre, de passer d'une échelle municipale et donc avec une agglomération, de voir aussi d'un point de vue régional comment est-ce que les choses tournent, alors de manière aussi historique, parce qu'il y a, comme on le disait avec Valérie tout à l'heure, en discutant, il y a les groupes qui ont joué les uns avec les autres, et puis aussi ces phénomènes, des choses culturelles. À Rouen, on a toujours eu peur des skins du Havre. Au Havre, pour nous, c'était la classe, quoi. Les Havrais, c'était pas des freebeurs, etc. Donc il y a aussi culturellement et au sein des groupes des échanges régionaux qui sont une échelle supérieure à celle de la ville et de l'intérêt particulier qu'on a en faisant des monographies de groupes comme on le mène sur Rouen. Donc pour moi, c'est très riche d'avoir ce triangle. Il nous manque Évreux quand même, parce que sur la Normandie, on voudrait quand même pouvoir compléter les données normandes si on fait un travail vraiment à l'échelle régionale. Caen, Lisieux, avec toute cette agglomération de Basse-Normandie, Rouen et puis Évreux devraient pouvoir jusqu'à... voilà. Et puis, mais on va pouvoir compléter ça, et ce lien avec Jean-Noël, qu'on remercie encore, et Arnaud, va nous permettre de continuer le travail de manière très riche.
Voilà, et comme le travail a été bien fait, là, depuis 4 ans, ben, on va essayer, le premier volume qui va sortir, parce que pour l'instant, toutes les journées qu'on fait là, on n'a rien publié. Elles sont captées, mais on n'a pas encore eu le temps. Et je pense que le premier tome qui va sortir, donc il y en aura 40 sûrement, ça sera sur le punk en Normandie, donc avec tout le travail accompli depuis 4 ans là-dessus.
Alors juste deux mots, est-ce que le punk va réconcilier les Havrais et les Rouennais qui se détestent depuis 4 siècles? Je ne suis pas certain, j'espère bien, étant Rouennais et Havrais. Je crois que c'était important qu'il y ait une journée d'études au Havre. Si vous connaissez la ville, pour moi, je suis pas vrai, hein, c'est le vrai Havrais est là-bas, c'est Arnaud qui on a eu l'idée ensemble de cette journée, c'est lui le vrai spécialiste de l'histoire havraise. Mais moi quand je suis arrivé au Havre la première fois, je me suis dit bah waouh. Il n'y a pas plus punk comme ville. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des allées, ta ville a été complètement détruite. Il y a un air de fin du monde, de vraiment no future. Alors c'était, moi il me semble, l'identité du Havre, bien sûr, elle est là. Hein. Le punk, c'est une ville punk par essence, je dirais. Une ville avec une culture ouvrière extrêmement forte. Ça, c'est très fort, avec une scène naturellement qui était très vivante. Quand je suis arrivé au Havre en tant qu'historien, il y avait des projets sur l'histoire du Havre. Et... ce qui était intéressant, c'est que on a au Havre une tradition d'histoire ouvrière. C'est-à-dire, la grande figure, me semble-t-il, de l'histoire havraise, c'est la figure de l'ouvrier. Et quand je suis arrivé en parlant un petit peu d'histoire culturelle, du punk, de ce qui se passait dans les années 70, bon, mes collègues n'étaient pas super intéressés. Je parle pas d'Arnaud, mais un certain nombre. Finalement, le social l'emportait sur le culturel, d'une certaine manière. Le culturel n'était qu'un épiphénomène du social. Ça me paraît dommage parce que le culturel a vraiment, comment dire, une identité, une autonomie aussi. Et au Havre, elle est très particulière. Donc progressivement, avec des rencontres, etc., on est arrivé à monter cette journée d'études. Et je crois que les gens étaient fiers, véritablement fiers de cette journée. Il y a vraiment eu des moments de grâce. On a eu 100 personnes à un moment, dont 60 étudiants. Effectivement, on a discuté après, ils étaient ravis. On a eu des vrais échanges. Quand Little Bob a pris la parole, les jeunes se sont complètement tués. Ils ont éteint leur smartphone. Ils ont écouté ce type là qui racontait, il a 75 ans, qui racontait ses rencontres, etc. C'était vraiment un moment de grâce. Donc, elle était vraiment nécessaire cette journée parce que les Havrais sont fiers de leur culture, fiers de ce côté d'image de ville ouvrière, rebelle. Et c'était un hommage aussi à cette histoire du Havre. La deuxième chose, t'as raison. Je trouve que ce projet est absolument formidable. Moi, il y a une semaine, j'étais à un colloque sur Camus où je parlais de Caligula, des sources du Caligula de Camus. Il y a 3 jours, j'étais à Blois pour parler de Flaubert et de l'Antiquité. Et là, je suis avec le punk. Donc, c'est très intéressant. Solveig est spécialiste de la musique du XVIIIe siècle, à l'origine. Moi, je suis spécialiste de l'Antiquité. On a tous des spécialités tout à fait extraordinaires. Et on se retrouve autour d'un objet. C'est extrêmement riche. Et moi, je voudrais vraiment vous remercier de nous avoir accompagnés dans ce projet, d'avoir monté ce projet. C'est une vraie réussite. C'est magnifique. Merci beaucoup, Luc Solveig.
Et on finit avec oui, Montbéliard.
Avec Montbéliard, Bourgogne-Franche-Comté. Bon, parce que au départ, la journée devait se tenir à Dijon, puis pour diverses raisons techniques, enfin, on va pas tout rappeler. Bon, finalement, la journée s'est déroulée à Montbéliard.
Oui, donc du coup, l'équipe Pint a fait appel à Audrey, qui est la spécialiste de la scène locale, et elle-même a fait appel à un mec avec une chemise à fleurs pour décorer un petit peu. La journée. Alors, simplement, je vais te laisser présenter, puisque c'était toi la locale au départ.
C'est bon, parce que c'est toi qui as le... Merci. Alors, c'était donc la scène punk en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une journée qui s'est déroulée le 21 septembre. C'était le samedi des journées du patrimoine. Et donc, c'est une journée qui s'est bien passée grâce au réseau local, puisqu'on a été accueillis par Sabino D'Ambra, qui est responsable de la salle de l'atelier des Mauls à Montbéliard. Et donc, Sabino nous a amené un certain nombre d'acteurs de la scène locale, donc qui a permis en fait à cette journée de se tenir très axée justement autour des acteurs, autour des punks anciens et contemporains. Et donc, on a eu beaucoup d'échanges, de tables rondes, d'interviews et de petits documentaires dont va vous parler Laurent aussi.
Donc, simplement pour couper un petit peu, il s'agissait plutôt quand même d'une centration sur la scène de Montbéliard, je ne sais pas si on dit montbéliardaise ou montbéliarde, on va dire de Montbéliard, hein, plutôt que un essaimage, même si peut-être tu vas nuancer avec la première table ronde.
Alors on a effectivement eu 2 tables rondes et la première table ronde, on a voulu mettre l'accent sur les lieux de diffusion de la culture punk en Franche-Comté. Donc on avait fait intervenir des responsables de SMAC qui programment des groupes punk rock aujourd'hui. On avait aussi les responsables, évidemment, de l'Atelier des Môles, donc la présidente de l'association, puisque l'Atelier des Môles est tenu par une association. Et puis, on avait aussi des acteurs locaux qui tiennent des labels, notamment à Montbéliard. Et donc, l'idée de cette table ronde, c'était vraiment de montrer qu'on avait plusieurs lieux de diffusion, plusieurs manières aujourd'hui de valoriser la culture punk, et que malgré les dissensions qu'il peut y avoir parfois entre les SMAC et les salles autogérées, si on peut le dire comme ça, il y avait quand même, en tout cas sur le bassin de Montbéliard et Franche-Comté, un petit peu moins pour la Bourgogne, puisqu'on n'avait pas de représentants de la Bourgogne pour cette table ronde, mais il y avait vraiment une synergie, en fait, et il n'y avait pas du tout d'animosité. Pour le coup, c'est une table ronde où les acteurs étaient vraiment en complémentarité, notamment lié au fait que la Franche-Comté a pour particularité d'avoir des scènes urbaines, donc comme Montbéliard, on y reviendra avec la deuxième table ronde, mais aussi des scènes, le punk rural, donc le punk à la campagne, et ça oblige un petit peu les acteurs à travailler ensemble, et c'était une jolie table ronde qui nous a permis de voir les différents lieux de diffusion et leur complémentarité, en tout cas en Franche-Comté.
La deuxième table ronde, elle était historique, mais en fait, elle est malheureusement, je dirais malheureusement, on n'a pas pu faire autrement, centrée sur ce que nous on a identifié comme étant la deuxième génération. Et elle était donc plus dans une dimension historique de première, deuxième génération que dans la génération contemporaine. Malgré tout, et puis pour corroborer les témoignages du Havre, il y a eu d'excellents reportages sur un groupe de la scène de Montbéliard qui s'appelle No Fuck Bébé, et issu d'une cité ouvrière, ce qu'ils appellent la Peuge, la cité Peugeot. Et ça permet effectivement de recouper et de croiser pas mal de témoignages sur ce punk en milieu ouvrier. Et également, bon, Audrey l'a déjà évoqué, effectivement, le témoignage de Sabino, qui est quand même la cheville ouvrière de cet Atelier des Môles, hein, lieu central. J'y reviendrai en conclusion. C'est à moi de conclure, là. Ah oui, reportage François, mais je viens d'en parler à l'instant, c'était dans Les Enfants du Rock. Voilà.
Et enfin, cette journée s'est terminée par un concert organisé donc par l'Atelier des Môles avec deux groupes locaux donc qui répètent régulièrement là-bas, donc plutôt rock, punk rock, voilà, même si on n'était pas sur du punk à proprement parler, ils se définissent pas forcément comme ça d'ailleurs. Un groupe entièrement féminin, donc les Fallen Lilies, et le groupe local de la scène des années 80, Kryptonics, voilà, qui nous ont fait un bon concert de fin de journée.
Très bon concert. Et pour conclure, puisqu'on parle de résultats, on ne va pas donner tous les résultats parce que, comme le disait Luc, souvent on part d'une journée PIN avec plus d'interrogations que de réponses. Hein. Et c'était d'ailleurs, tes propos m'ont fait plaisir parce que c'est un peu comme ça que moi j'ai introduit la journée en disant ouais, le punk, ouais, plus on en parle et plus, moins il est aisé à définir. En tout cas, on ne peut pas en définir les contours de façon précise. Mais en termes de résultats, bien, on a ce qu'a évoqué Audrey, la prégnance du lieu et de l'association en termes de présence de passeurs, hein, des passeurs, Sabino notamment. Et puis moi qui travaille, alors pour répondre aux propos de Monsieur Ledrac, je travaille pas mal, je présenterai cet après-midi sur la transmission intergénérationnelle. Et bien là, on a un exemple assez spectaculaire de transmission intergénérationnelle entre Sabino et puis sa génération des 5 ans sexagénaires, et puis par exemple les Fallen Lilies qui sont investis dans cette salle et dans ce lieu. Et au passage, un petit chiffre qui moi m'a impressionné, sur le comité de direction des Môles, eh bien, il y a, sur 15 membres, il y a 11 filles. Donc c'est quelque chose qui n'est pas commun. Voilà.
Parce que t'as rappelé ce témoignage essentiel que constitue cette série de Vulhermé, Les Enfants du Rock, hein, qui était paru dans les années 80. Il y avait eu un spécial Montbéliard. Je voudrais remercier au passage notre partenaire Lina, qui nous a permis de diffuser ces images et ces extraits de cette émission, qui reste un document absolument essentiel.